voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Étienne Robial. Ce soir, numéro 0, la règle du jeu.
Bonsoir Étienne Robial.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez parlé succinctement de votre enfance à Rouen, plus longuement de votre formation à l'école des Beaux-Arts de la même ville de Rouen, puis à celle des arts et métiers de Vevey en Suisse, là où vous avez appris la rigueur. Et à la fin de cette formation, vous êtes fin armé pour faire vos premières armes dans le graphisme, dans la direction artistique. Vous arrivez à Paris, c'est quasiment au milieu des événements de mai.
En plein, hein, on peut dire, en plein, puisque c'était plus précisément au mois de mars, un certain 22 mars. Et là, pareil, je me sens obligé de me rendre utile. Et surtout...
Vous étiez politisé à l'époque ?
À Rouen, il y avait quand même une cellule, il y avait un dénommé Manchette, qui est devenu célèbre avec ses Feu Manchette, hélas. Avec ses romans policiers. Il y avait tout bêtement un noyau de la Ligue, la LCR à l'époque, ça s'appelait. Donc je faisais partie. Je ne peux pas dire que j'étais un grand militant, mais j'étais un... Tout simplement pour écrire « Âgé demain, 17h30, amphi 4 ». Il était assez mort de question de bâcler ce petit travail de communication. Et très vite, je me sens obligé de faire des très beaux panneaux avec les programmes des AG et autres, qu'on dupliquait à l'époque avec les incontournables sérigraphies et les petites techniques de reproduction de l'époque, qui sont quand même très rudimentaires. Et c'est vrai que dans un premier temps, à Rouen, on devait avoir les plus belles affiches AG, et ainsi de suite, avec tous les mots d'ordre et tout ça. Et puis très vite, Rouen-Paris, c'est assez près. J'ai un avantage sur beaucoup, c'est que j'ai ma piole toujours rue de Prony. Et on fait beaucoup d'allers-retours. On avait des difficultés à trouver de l'essence et tout ça. Et je vais avoir un rôle de relais ou d'intermédiaire entre la rue Bonaparte, les Beaux-Arts à Paris.
L'atelier populaire des Beaux-Arts.
Voilà, et les écoles de province, en commençant par Rouen. Bien évidemment, mais après sur Angers, sur Strasbourg et sur un certain nombre de villes, je vais faire la navette, pas forcément transmettre la bonne parole politique, mais au moins donner des consignes de bonne tenue des supports de communication de l'époque. Pas directement lié aux affiches, aux ateliers d'affiches, parce que là, c'était les Parisiens, c'était un peu leur garde. Mais enfin, je voulais quand même jouer mon rôle, donc j'en ai fait quand même quelques-unes. Mais surtout, servir de lien entre les différentes écoles de Beaux-Arts. Hein. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire une édition... non pas international mais interprovincial de l'Enragé. Donc je fréquente Runiel l'Enragé Paris et je fais une édition.
L'Enragé Paris, il faut rappeler qu'est-ce qu'était ce journal à l'époque.
C'est édité par Pauvert Runiel dans le 6e et avec Ciné, il y a un très bon bouquin qui vient de sortir récemment sur le sujet. Moi, mon boulot, c'est de... Alors, évidemment, je refais une version robialesque de l'Enragé avec une lettre Goudy à empattement que je voyais beaucoup plus forte et beaucoup plus nerveuse pour transmettre un message. Et puis, on reprend des images, des visuels, des écoles de province, des écoles, des photos de Paris, enfin, qu'on retrouve, avec quelques peu de soucis de droit ou de droit de reproduction. Le principal, c'était de faire passer le message et de motiver les troupes dans les différentes écoles. Les écoles d'art n'étant pas forcément très virulentes, pas très fortes dans la contestation. Ce qui a fait que très vite, dans une de mes actions retentissantes, au Cap Ferré, c'est près de Bordeaux, après les événements, juste après, et puisque c'est le 14 juillet, où le bourgeois bordelais, qui a sa résidence secondaire au Cap Ferré, plutôt vers la pointe, exhiber des drapeaux bleu-blanc-rouge absolument partout. Il y avait eu les grandes manifestations de
la marche
de soutien des Champs-Élysées, etc., qui n'étaient pas forcément gauchistes. Et là, c'est ma première grande intervention chromatique qui a consisté. Alors, le drame, c'est. Pour certains, c'est que j'ai entraîné derrière moi une quinzaine de camarades, puisque j'étais considéré comme un meneur. Et Florence Estac, qu'on va retrouver à Futuropolis très vite, on se fait toutes les villas, on crapahute, on passe par-dessus le mur, on descend le bleu, blanc, rouge, et on enlève le bleu et le blanc. On réalise évidemment après et aujourd'hui la gravité du geste.
Profanation.
Voilà. Je n'y avais vu qu'un geste chromatique, moi. Et on ne remonte bien sûr que le rouge. Et le lendemain matin, toutes les villas pavoisées d'un rouge 285. Et c'était du meilleur effet. Pas pour tout le monde, mais très vite, on s'est fait arrêter le lendemain midi. Hilar. On a quand même fait 18 jours de préventive à Bordeaux, à Draguignan. Mon mandat d'arrêt était signé par un dénommé Chaban-Delmas. Donc 18 jours de préventive à 20 berges, 23 berges, c'est long. Et surtout à l'époque, ce qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait le service militaire. Et alors, je n'échappais pas à la règle. On faisait durer le plaisir en s'inscrivant dans des facs où, et à l'époque, je m'étais réinscrit déjà aux arts déco, en sculpture, pour pouvoir bénéficier du sursis militaire. Eh bien non, et à la sortie, donc, il y a eu un jugement, une forte amende, ce qui était de 600 000 francs. Le paquet de Gauloises valait 85 centimes, donc ça a été très très lourd. Suppression des droits civiques, que je n'ai récupéré qu'en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et surtout, direction la caserne, en Allemagne. Donc là, c'était franchement nettement moins drôle, et direct l'Allemagne, Wittlich, et après Berlin, et ainsi de suite. Et surtout en disciplinaire, c'est-à-dire pas de permission. Simple bidas. Alors j'étais vaguement chargé de la décoration du mess des officiers, et puis très vite j'ai eu le droit à un petit local, un espace pour préparer des trucs, et c'est là que j'ai commencé à faire des pochettes de disques pour Barclay, que j'envoyais par la poste, et c'était mes premières grandes collections de disques de jazz, et j'ai fait une centaine de, ça s'appelait la collection Jazz Héritage. Et donc le directeur artistique de un certain Marouani chez Barclay m'a dit tu fais à ton rythme.
Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec
Je le connaissais
au fond de l'Allemagne.
Non, je les connaissais vaguement, puis on avait déjà fait avec Florence, qui était ma petite amie à l'époque. On avait déjà fait quelques pochettes de disques et autres, et puis ce filon-là a permis j'ai pu en produire un certain nombre, et puis c'était payé 3 balles, c'était pas ça le problème, mais quand même. Et surtout, c'était une collection, et c'était tous les disques de jazz, plutôt de l'entre-deux-guerres et tout ça, tous les Cab Calloway et compagnie, et donc, encore une fois, et surtout une première grande série, et on en a fait une centaine, et c'était fait à l'aérographe. J'avais appris à manipuler l'aérographe en Suisse, et je reviens en 70, 71 à Paris. Et bah, je continue à faire des pochettes de disques. Et surtout, c'est le, avec des potes de, des Arts Déco, avec Jean Lagarrigue et des illustrateurs de l'époque, bah, on commence à travailler pour lui. Lui magazine, mais lui, pas très loin, il y a Jazz Mag, et il y a un grand monsieur qui s'appelait Régis Pagnès, qui était le directeur artistique général de Philippe Aki, qui me dit fais des trucs. Et donc, je me lance à faire des numéros zéro, enfin, qui va devenir ma spécialité. C'est-à-dire des gabarits, des feuilles de style sur la façon dont on peut présenter. À l'époque, il n'y a pas de Macintosh ni tout ça. Hein. On est en.
Tout se fait à la main.
Tout se fait à la main avec des bromures, avec de la photocomposition, avec les corrections, avec la Bible de la correction typographique de 1922 qu'il fallait absolument respecter. Et puis on met et je crée la maquette de Mademoiselle Achetand d'un magazine qui s'appelle Super Hebdo. Puis on était comme ça une dizaine de potes des Arts Déco. On fait des petites collections Mademoiselle Achetand pour les midinettes. Pour les, et ça on s'amuse beaucoup. On travaille avec Topper qui signait Laurent Potter, facile. Et l'idée, c'était des genre petits mini comic books et très très épais. Et l'idée, bah, c'était de faire des petites nouvelles de midinette. Mais c'était plein de clins d'œil. Le héros s'appelait Warhol. Enfin, plein de private jokes. Et on faisait des couvertures, on faisait la maquette de ces petits bouquins. Et on faisait travailler bah, plein d'écrivains qui signaient tous sous des pseudos pour gagner 3 balles. Avec le système de l'aérographe également, on a à l'époque on prenait en et ça c'est déjà avec Florence Estac, on prenait en photo les vedettes de l'époque, c'était Françoise Hardy, Sylvie Vartan. Assez tôt le matin à jeun en photo noir et blanc, et on retouchait avec les conseils d'un parfumeur, un dénommé Serge Lutens, qui a progressé après, et il disait un peu de rouge, un peu de vert sur les paupières. Et à partir d'une photo noir et blanc, on a commencé à faire des séries de maquillage en fonction des marchands de cosmétiques et autres sous la direction artistique de maquilleurs ou de gens de la beauté. Et avec une photo, on faisait 10 pages. Au tarif, Philippe Aki, la page.
C'était bien payé, le tarif?
C'était super bien payé. Encore une fois, on a 25 ans, donc c'était super bien payé. Et surtout, la formule marche tellement bien que le L Hambourg, il voudrait faire la même chose. Mais alors, Sylvie Vartan, Hambourg, personne connaît. Donc, c'est avec les Sylvie Vartan et les Françoise Hardy allemandes qu'on refait le même truc. Et ça marche du feu de Dieu. On est aussi chineur. Et un matin, en chinant, alors ça se passe à Montreuil, à la grande époque, où on mangeait un roll mops à 7h avec un verre de blanc, qu'on rencontre un mec qui dit « j'ai une librairie à vendre, une petite librairie qui s'appelle Futuropolis, je vends des livres d'occasion, etc. Oh, ça c'est pas une mauvaise idée, et c'est comme ça que va commencer la grande aventure Futuropolis.
Alors ça, on en parlera demain.
Et voilà, bien, donc on a tout dégagé.
Et au moment, mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, que le numéro zéro, c'est votre vrai métier. Comment on conçoit un numéro zéro? On va prendre un exemple, celui du Point. Le Point est créé en 1972, hein, 72, je crois, oui. Par Philippe Aki avec des anciens de l'Express. Alors vous avez 27 ans, on va vous dire, on va créer un nouveau, ce qu'on appelait pas encore les news magazines à l'époque au boulot.
Oui, enfin c'était déjà dans ces profils-là, et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on peut présenter, architecturer des papiers, des informations, des images autour d'un sujet donné pour un public, un lectorat particulier. Sur le point, on travaille surtout sur les pages enfants, magazines enfants et tout ça. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de magazines, mais je suis jamais resté dans les magazines. C'est comment concevoir, quel type de caractère il faut utiliser, quelle taille de caractère. Donc ça, il y a encore une fois des tests qui ont été faits. Et si on s'adresse à un certain type de lecteur, on va lui proposer un corps neuf, c'est-à-dire encore une fois une taille de caractère qui peut se lire vite et destiné à des gens qui ont l'œil encore très vif et tout ça.
Il n'y a pas besoin de lunettes pour voir de près.
Voilà, alors après c'est rigolo, ça agrandit par la suite. En revanche, si on s'adresse à un public enfant, on va aller vers une taille qui s'appelle le corps 14 par exemple, qui est une taille que l'enfant va beaucoup mieux lire et voir. En revanche, on va créer des blancs, des intermots beaucoup plus blancs que sur un texte ordinaire. On va écrire ce qu'on appelle en drapeau, hein, c'est-à-dire on fait à gauche, ce qui est un pléonasme, on va pas rentrer dans les détails, de façon à avoir une lecture facile et un retour à la ligne aisée. Donc ça, c'est de définir que pour un public de tel âge, alors... Tout ça est classé, j'ai étudié aussi tout ça, entre les préscolaires, les scolaires, et les ados, les pré-ados, et etc. Il y a des conforts de lecture, et c'est ça qui m'intéresse. Alors ce qui m'intéresse, c'est de le définir, découvrir, le définir, en créer une sorte de règle et de loi, de règles du jeu, de mode d'emploi, de façon à ce que le ou les directeurs artistiques des différentes rubriques puissent appliquer par la suite. Et c'est ce moment, cet instant précis, la création de la grille, là, qui m'intéresse. Hein, où j'ai refait Télérama en 77, qui était un grand tournant, qui était le passage du noir et blanc à la couleur. Pareil sur sur le choix du caractère typographique, sur la façon dont il est imprimé, la façon dont il est peigné, c'est-à-dire interligné, hein, pas interlettré mais interligné, la façon dont les blancs entre chaque mot vont poser chaque mot et tout ça. Donc on fait ce qu'on appelle des feuilles de style. En fonction des différentes rubriques ou dans un même magazine, en fonction du type de rubrique, le texte va pas du tout être le même. Hein, ou l'expérience simple, le même papier, un papier de Libé composé avec le caractère du Figaro et vice-versa, un papier du Figaro composé avec la typographie de Libé, qui n'est pas un modèle du genre actuellement, mais bref, vous ne lisez pas de la même façon.
Alors quand vous intervenez, vous l'avez dit sur Télérama en 77 ou plus tard, beaucoup plus tard sur Les Inrecuptibles, je crois que c'était en 2010, vous arrivez, vous nous l'aviez dit, c'était hier que vous aimez bien apporter du nouveau, bousculer un peu les choses, mais on est bien placé à la radio pour le savoir, on ne change pas une grille comme ça et on ne change pas un lectorat comme ça, il faut tenir compte aussi de l'histoire d'un journal, des habitudes de ses lecteurs, et parfois certains lecteurs peuvent être très presque bouleversés par un changement de formule.
Tout à fait. Alors ça, c'est propre précisément à ce que je fais. C'est justement en fonction du lectorat où chaque type de magazine a la réception n'est pas du tout la même. Dans le magazine de Canal+, ça ne sert à rien de perdre du temps sur la une, la couverture, puisque la chose, elle arrive emballée sous plastique dans la boîte aux lettres. En revanche, ce qu'il faut, c'est des informations précises de programmes et tout ça. Sur Télérama aussi, qui n'est pas tellement vendu en kiosque, mais qui est surtout lu, qui est surtout acheté par abonnement, qui fonctionne par abonnement, il faut surtout pas perturber. Et donc ça, il y a des manipulations, mais ça, je suis un grand manipulateur, c'est de faire glisser la chose doucement, sans que ça fasse du mal et sans qu'on s'en aperçoive. Et ça, c'est une sorte de mécanique d'horlogerie extrêmement précise que l'on va prédéterminer dans le temps, de façon à ce que on arrive à nos fins, c'est-à-dire à nos fins de les objectifs que l'on s'est fixés d'aller vers ce point-là plutôt que vers un autre, en douceur, de façon à ce que le lectorat s'en aperçoive pas. Là, dans la presse, c'est une alchimie douce qui est extrêmement aussi dangereuse à manipuler.
Vous êtes attaché à certaines de vos formules, ou en tout cas de chartes graphiques, parce que vous n'êtes pas le seul, et parfois c'est toujours le graphiste qui porte l'échec d'un titre, où on sait que quand un nouveau directeur arrive, un nouveau rédacteur en chef, ça veut dire une nouvelle formule et qu'on va casser tout ce que vous aviez construit auparavant.
Moi, mon travail il tourne autour de mes trois fondamentaux qui sont pas forcément dans cet ordre-là, mais l'aspect caractère, le caractère typographique, l'aspect forme, les formes, et l'aspect chromatique, couleur. Alors des fois ça change. Dans la télé où là je travaille sur le Centre Pompidou, il y a un plus un qui est le son, qui est aussi un identifiant. Mais le but est toujours d'arriver à ce que, tout simplement, même les codes chromatiques, les codes couleurs, correspondent déjà simplement au public visé. Alors, encore une fois, faut démolir les a priori ou les habitudes que les gens ont dans leur support. La plus grosse tarte à la crème étant le vert des trucs bio. Alors, si vous faites des dans le yaourt, il faut faire bio, vert... qui est une connerie. Le vert, c'est pas bio. Et vous demandez aux gens pourquoi vert. Ah ben, la nature, les petits oiseaux, le gazon, les arbres. Non, vert, c'est l'avenir, c'est l'assurance. C'est dans le cercle chromatique ou les analyses physiologiques du cercle chromatique. Tout ce qui est rouge, c'est tout de suite, c'est l'action, c'est le feu. Alors on retrouve bien sûr tous les clichés. Et de l'autre côté, l'opposition, la complémentaire, c'est loin, là-bas, l'avenir, etc. Et le vert du bio, c'est demain, c'est l'avenir. Alors on retrouve un peu tous les schémas. J'ai fait aussi dans le logo écolo, donc les a priori, je les connais bien aussi. Mais vous voyez, c'est pas l'herbe, ni le gazon, ni les laitues, ni tout ça. C'est vert, c'est demain. On va toujours de rouge, vous êtes ici, à là-bas, vert bleu. Enfin, c'est un vert bleu de diamétralement opposé.
Si on prend un exemple de couleur, le orange des inoccupables.
Alors d'abord, on dit pas orange, hein. Pardon, on dit orangé.
L'orangé, des inoccupables.
La couleur orange, ça n'existe pas. L'orange, c'est un agrume qui se presse et qui désaltère. Non, la couleur, elle s'appelle orangé. Alors, c'est soit un orangé, c'est soit un rouge qui est orangé ou un jaune orangé. Et entre les deux, toute la zone, c'est ce qu'on appelle les orangés, comme, c'est comme un peu les violets, les pourpres, et ainsi de suite. Alors ça, on aura l'occasion de reparler du vocabulaire, mais là-dessus...
On en parlera vendredi. Alors, bah, cet orangé, ah, bah, en
l'orangé,
tout cas,
bah, voilà, l'orangé,
ça évoque quoi, ça?
Bah, l'orangé, c'est c'est exactement le placement de l'action, hein, vers le jaune, hein, c'est la jeunesse, la création et tout ça. Donc là, on est en plein dans l'entre-deux du rouge de l'action immédiate, la consommation, et le jaune qui est tout l'espace de création, lui-même opposé au violet qui est plutôt la maturité, le recul, et ainsi de suite. Et donc l'orangé, déjà de pouvoir définir que l'orangé, alors attention, les couleurs, elles ne se vivent pas toutes seules, hein.
Alors il est là dans ce cahier que vous aviez déjà ouvert. Pour nous, nous sommes dans un cercle de couleurs.
Si on divise le cercle chromatique verticalement, c'est-à-dire du jaune au violet à droite et du jaune au violet à gauche, à droite nous avons les couleurs du plaisir et à gauche les couleurs du devoir. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Ce qui fait jouer, quand on fait jouer des complémentaires, c'est de mettre un peu de plaisir, mais un peu avec des règles, ou alors d'être extrêmement rigoureux, mais on est là aussi pour la rigolade, et ainsi de suite. Donc on peut faire jouer tout ça. Si on coupe le cercle chromatique du bleu-vert à l'orangé, vers le haut, c'est toutes les règles de l'attachement, et le bas, c'est le détachement. C'est pour ça qu'on a la genèse vers le jaune. C'est difficile à la radio d'expliquer le cercle chromatique, mais on arrive à trouver tout autour du cercle des éléments, encore une fois, de perception physiologique. Hein. C'est pas culturel, hein, c'est pas les clichés que l'on trouve partout. C'est franchement et pour définir l'orangé particulier des incorruptibles, on est dans le plaisir, dans le désir, dans l'exotisme, dans le rythme, dans le rythme un peu binaire bavarois, boum boum, face encore une fois à une position plus aérienne, plus de dépendance, plus de prévention, d'assurance. Hein. Vous n'allez pas faire un logo d'assurance en orangé. Vous allez plutôt être dans les verts ou dans les bleus, ou tous les trucs de prévoyance, de fidélité, de bien sûr de rigueur, de loyauté. En revanche, dès qu'on descend, toute la critique, le mystère, l'ambiguïté, l'analyse, la sagesse, tout ça, on est dans les bleus, violets, et ainsi de suite, face au jaune qui est lui beaucoup plus la jeunesse, la joie de vivre, l'inventivité, la créativité, la spontanéité, voilà, la spontanéité. Enfin, il y a toujours des dialogues à faire dans ce cercle et qu'on peut retrouver aussi bien dans un logo, une tétière de magazine que dans une marque de produit, quelle qu'elle soit.
Alors, on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir plus tard. Étienne Robial, vous avez amorcé à l'instant l'histoire de Futuropolis. On va y revenir demain. Et c'est intéressant que vous nous ayez beaucoup parlé de couleurs, puisque Futuropolis, ce sera aussi le grand éditeur du noir et blanc dans les années 70 et 80. Merci beaucoup, Étienne Robial.
Bonne soirée et à demain.
Et à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Étienne Robial. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.